La chronique en débat, c'est l'actualité éducative avec l'éditorial de l'Espère, comme l'a vu Maudie Johnson, analysé et commenté par Laurent Ladouce. La chronique en débat, c'est chaque semaine sur la web radio du groupe Éduque Action.
Chers passionnés de l'éducation, fidèles amis auditeurs, auditrices de la web radio Éducation, bonjour et merci de prendre une fois de plus le rendez-vous hebdomadaire de votre émission Chronique en débat. La violence conjugale faite aux femmes, on en parle toujours. Mais qu'en est-il de celles que subissent les hommes? Maudie Johnson, sociologue, philosophe et planificateur de l'éducation, décide d'en parler dans sa chronique de ce jour, mardi 25 juillet. Les femmes à l'horreur, vous avez bien entendu, les femmes à l'horreur et non les femmes à l'honneur. Bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire, la chronique en débat, une réflexion que nous propose le chroniqueur.
Une certaine fable me revient. Un éleveur dilettante, mais soucieux de ses biens, constata qu'on le volait. Pire, la volaille bien dodue disparaissait, dépeuplant la basse-cour. Il fit le guet et surprit un lointain voisin vaurien dans son enclos. Il apostropha, décidé à en découdre avec lui. « Que faites-vous là, sitard ?» Le sieur, constatant la présence de sa pieuse femme derrière le propriétaire, répondit avec aplomb. « Je suis l'envoyé du Christ, car il a été dit que nul ne sait le jour et l'heure. » Le fermier, voulant rabrouiller cet impertinent, sa femme intervint et demanda son indulgence. Celui qui connaissait le livre saint devait avoir le bénéfice du doute, selon elle, ou être pardonné. Cependant, les poulets, canards et autres pintades continuaient à disparaître. Excédé, le fermier reprit sa garde tout seul, autour de son enclos, toujours plus dépeuplé. Au clair de lune, l'indélicat voisin se pointa encore, le ventre rebondit, les papilles gustatives pleines de félicité que donne l'assouvissement d'appétit vorace et impuni. Tombé dans les filets, il fut ficelé prestement sans un mot. Tandis que le vaurien déblatéra ses platitudes, le propriétaire prit un coupe-coupe et l'aiguisa consciencieusement sur une meule qui servait au moment de basse manœuvre sur le cheptel. Sentant sa dernière heure venue face à tant de détermination, le profiteur confessa ses forfaits passés, présents et même à venir, tout en suppliant la grâce. Mais le quasi-bourreau avait décidé de finir avec la canaille autant que celle-ci avait fini ses poules et canards dodus. N'en pouvant plus, le bandit se mit à crier, toute honte bue, et ameuta tout le pays, ce qui lui sauva sûrement la vie. Je suis en ce moment dans le même cas. Comme à mon habitude, je reviens d'une énième virée dans les bars et les maisons ouvertes et accueillantes. En cette fin du mois, il était à peine 2 heures du matin. Généralement, ma femme venait m'ouvrir la porte de la maisonnée et m'accueillait sans mot dire dans la chambre où je m'affalais passablement éméché dans le lit conjugal. Au matin, elle tenait ostensiblement sa Bible et son chapelet et marmonnait contre les gens possédés par les forces du mal qu'il s'agissait de repêcher. Je répondais soit d'un air contrit, soit par un visage fermé à toute discussion. En fin de compte, je gagnais car la belle dame pensait à sa progéniture et à son Dieu bon et clément. Mais quand je suis rentré aujourd'hui, je sentis qu'il y avait un véritable changement. Ma femme, cette grande dame, ayant hérité de Tassi Rangbe, la grande Amazone, m'accueillit au salon où elle s'était installée, habillée comme une guerrière, allant vers un combat ultime où elle n'avait rien à perdre. Le coupe-coupe et le long couteau des babas, maître de la viande découpée et désossée, posée sur la table, ne présageait rien de bon. Son regard, auparavant morne et résigné, me transperçait et me dépassait pour regarder un futur qui ne nous appartenait plus. Je balbutiais un « Mais, mes chéris, que se passe-t-il ? » Elle répondit comme se parlant à elle-même. « Jamais 102, jamais 203. Si ce n'est pas l'arrache, c'est le coupe-coupe. Va te coucher donc. » Brutalement, je fus complètement dégrisé. Je me rappelais de l'actualité du moment où une femme avait découpé à l'arrache son conjoint. Ma femme, ma douce femme qui me permettait tout, occupée à ses tâches ménagères et religieuses, pouvait-elle avoir de telles pensées? Mais encore, passer à l'acte. Quelle abomination! Qu'ai-je fait pour mériter cela? Ai-je créé ou multiplié les débits de boissons? Est-ce moi qui habille de manière indécente les filles et les femmes qui vous aguichent à souhait et vous demande des momos en même temps que les numéros de téléphone? Le plus étonnant, c'est que, pendant que ce monde turbulent et immoral s'en trouvait de plus en plus à moi, avec des filles nourries aux novelas et au TikTok, prête à tout pour mon argent de fonctionnaire, ma femme se fermait comme une huître. Son paradis résidait dans les seules paroles du divin pasteur. Feignant de ne rien comprendre, je me dirigeais vers la chambre conjugale. Elle ne me suivit pas et resta au salon. Je me dévêtis et me couchai sans aucune réaction de ma gentille dame. Brusquement, j'entendis le crissement des couteaux qu'on aiguisait. Elle passa la tête par l'entrebâillement de la chambre pour vérifier que je dormais. Nos regards se croisèrent. Moi hébété et presque terrorisé, et elle déterminée à accomplir son dessein et peut-être son destin. Malgré moi, les effluves de la bière m'emportèrent et je fus brutalement réveillé par les cris perçants et étonné de notre petite dernière qui m'affectionnait particulièrement et qui, comme à son habitude, était venue quémander un câlin aux aurores avant son dernier cycle de sommeil. Sa mère, assise aux abords du lit, tenait le coupe-coupe quasi fatal. Elle semblait se réveiller d'un songe et partit vers la cuisine tandis que la petite venait se blottir contre ma poitrine tremblante. Combien de temps me reste-t-il à vivre? Sauvez-moi.
Merci à Rodrigue Arotondji qui vient de lire la chronique de Maudie Johnson intitulée « Les femmes à l'horreur ». Pour décrypter ce sujet, j'ai à ma droite dans ce studio Kevin Akin. Il est le président de l'ONG Jeunesse et Talent pour le Sommet, une ONG qui fait valoir le talent des jeunes à travers des valeurs telles que le civisme, la citoyenneté, le patriotisme et l'exercice du devoir citoyen. Kevin Akin, bonjour.
Bonjour.
À ma gauche, pour tous ceux qui s'intéressent à l'entrepreneuriat, au leadership féminin et au développement personnel, elle n'est plus à présenter. Elle, c'est Aurore Dosuyovo. Aurore, bonjour.
Bonjour.
Plusieurs autres experts que nous aurons l'occasion de vous présenter interviendront au cours de cette émission. Merci, chers invités, d'avoir accepté spontanément notre invitation. Kevin Akin, lorsque le chroniqueur parle de femmes à l'horreur, qu'est-ce qu'il vous inspire?
Eh bien, merci beaucoup et merci à tous ceux qui nous suivent. Je vois déjà dans ce titre de cette chronique beaucoup de choses parce que nous avons eu l'habitude d'attendre les femmes à l'honneur. Et aujourd'hui, quand on entend parler de femmes à l'horreur, on comprend qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché faussement. Et donc, parce que la femme, c'est un être de douceur, c'est un être de majesté à qui on voue vraiment tout le respect du monde. Et donc, si elle quitte l'honneur pour aller vers l'horreur, qui est quand même, l'horreur, c'est quand même connu comme étant le péché mignon des hommes. Et si aujourd'hui, cela est un peu du côté des dames, il faut quand même s'en inquiéter. Et je suis inquiet à entendre déjà ce titre-là.
Aurore, le chroniqueur met la femme au banc des accusés. Allez-vous monter au prétoire pour la défendre?
Oui, mais enfin, quand on voit la femme à ce niveau-là, ça dépend de celui qui l'y a poussé, parce que la femme n'est pas arrivée à l'horreur d'elle-même. Ça dépend de beaucoup de choses qui sont cachées, qui ont été faites, parce que la femme ne réagit pas réellement vite. La femme accumule beaucoup de choses. Si on en est arrivé là, c'est une femme qui a eu à accumuler beaucoup de choses, qui attendait beaucoup aussi de son homme, qui n'a pas pu avoir ce qu'elle attendait et qui, à un moment donné, n'a que cette solution pour réagir à un moment donné. Dommage.
Comme je vous l'annonçais en début d'émission, plusieurs experts vont nous accompagner dans le décryptage de ce fait divers. L'un d'eux, Laurent Ladouce, il est à Paris. Il est journaliste, traducteur et auteur de plusieurs ouvrages et il accompagne spontanément et généreusement le groupe Éducaction depuis bientôt 2 ans. Depuis Paris, voici son commentaire.
Bonjour chers auditeurs, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je voudrais parler sur le besoin d'éducation spirituelle. Dans son éditorial, Maudie Johnson évoque 2 situations qui rappellent un grand auteur russe chrétien. En effet, les 2 récits parlent de personnes qui se sentent humiliées et offensées. C'est le titre du premier roman de Dostoïevski. Il écrivit aussi « Crime et châtiment ». Nous y sommes avec 2 tentatives de meurtre. Dostoïevski écrivit également « Les possédés ». Or, les démons rôdent dans les deux récits de l'éditorial. Dans le premier récit, l'homme en colère est poussé au démon de la vengeance par un voisin sans scrupules, possédé par la passion de voler des biens matériels. Dans la deuxième histoire, une femme laisse le démon de la rage l'envahir. Ses biens extérieurs sont intacts, mais son sens du bien intérieur est meurtri. Elle est réduite aux extrémités par la lâcheté de son mari, qui traîne, s'enivre un peu, s'attarde sur les beautés locales. Les deux récits ont une construction similaire. Dans les deux cas, la parole de Dieu est là, et nous avons un trio. Le propriétaire et sa femme pieuse font face au voleur dans le premier cas. Dans la deuxième histoire, la femme pieuse et son pasteur ne savent pas comment ramener le mari dans le droit chemin. Deux fois, la parole de Dieu est présente, mais ne parle à personne. Quand la parole n'éclaire plus les consciences, le muscle se charge d'aiguiser la lame. On voit que l'homme au coupe-coupe et la femme au couteau parlent pas, passent à l'acte, car le discours est vain. C'est là que nous voyons le besoin d'une éducation spirituelle. La parole de Dieu aurait dû éclairer la femme pieuse et lui donner la sagesse, car il était sans doute possible d'inviter le voisin voleur et son épouse et d'avoir une explication biblique avec eux. Or, la femme est partie dans une lecture de la Bible qui n'a rien à voir avec la situation réelle, car elle n'a jamais étudié les passages bibliques relatifs aux problèmes de vol, de rapine, de larcin entre voisins qu'on peut régler avec sagesse autour d'un repas. Dans le deuxième récit, la femme offensée parle à Dieu, mais n'arrive pas à impliquer son pasteur. Celui-ci aurait pu accompagner le mari dans les bars et lui dire fraternellement « Tu as sans doute d'autres soifs dans la vie. Je pense qu'au fond du cœur, tu aimes encore la femme de ta jeunesse. Veux-tu qu'on en parle? Je ne te juge pas. Je pense qu'on peut trouver une solution. » La violence fascine et nous aimons les drames et le sang. Le scénario que je propose dans les deux cas consiste à dédramatiser des situations désespérées entre trois personnes. Au lieu de les laisser accomplir sans le vouloir le mal qu'elles ne veulent pas, peut les éclairer sur la voie du bien. Celle-ci est moins spectaculaire que la voie du coupe-coupe, mais elle évite l'irréparable dans nos foyers, mais aussi dans nos champs et poulaillers. Voilà où je vois personnellement le besoin d'une éducation spirituelle. Je vous souhaite un très bon débat et une très bonne semaine. Merci.
Nous remercions Laurent Ladouce qui, depuis Paris, nous a livré son commentaire de la chronique du jour. Aurore, vous êtes également pasteur. Que vous inspire le commentaire de Laurent Ladouce? Pour lui, tout se résume à une éducation spirituelle.
C'est vrai, il a raison, tout se résume à l'éducation spirituelle. Parce que si déjà, à l'image de la parole de Dieu, les vertus de Dieu ont été enseignées, chacun essaie quand même d'accepter en lui. Et ça n'amène pas à ce genre de drame. C'est vrai, dans le premier cas, c'est celui-là qui a utilisé le verset, il l'a utilisé à tort. Ça veut dire qu'il y a vraiment des gens qui quand même ont une idée sur la parole de Dieu, mais qui ne l'ont pas acceptée comme telle. Mais ils utilisent ça à leur dessein, contrairement à ceux qui devrait être. Mais si déjà chacun a accepté cette parole et essaie de lire cette parole tout le temps, ça va changer la nature de l'homme, parce que l'homme de lui-même ne peut réaliser quelque chose de parfait en réalité. Mais lorsque l'homme est tout le temps en face de la parole, lit la parole, parce que la Bible dit de ne pas tuer, par exemple, la Bible dit d'aimer ton prochain comme toi-même. Si déjà chacun essayait d'aimer son prochain comme lui-même, les difficultés, enfin, le meurtre ou le vol ne seraient pas produits. Parce que déjà, lorsque tu seras en face de ce vol-là, tu vas te rappeler que Dieu a quand même refusé cela. Parce que c'est Dieu qui est le plus grand en réalité, qui juge au-delà de l'homme qui est en face, qui peut réagir en réalité. Donc, lorsque nous lisons la parole, lorsqu'on enseigne la parole, lorsque la parole de Dieu prend acte dans les vies, ça crée un changement de l'homme, du caractère humain, et ça amène la crainte de Dieu devant ce genre de choses.
Alors, Kevin, Karl Marx dit que la religion est l'opium du peuple. Laurent Ladouce ne nous endort-il pas avec cette réflexion spiritualiste? Le simple bon sens ne suffit-il pas à la femme, au simple regard des enfants, fruit de leur amour et du fœtus qu'elle porte en elle, pour éviter cette boucherie? Parce que notons que cette dernière a deux enfants avec son homme en question et était enceinte lorsqu'elle a posé cet acte.
Oui, si Karl Marx dit que la religion est l'opium du peuple, c'est une opinion. On ne peut pas refuser cela à Kalmas. Cependant, il faut déjà voir que quand on est face à ce genre de situation, il faut essayer d'aller un peu vers l'historique des droits de l'homme, par exemple. Il faut aller un peu en arrière et comprendre, par exemple, que même le décalogue, les 10 commandements, font partie des sources des droits de l'homme. Quand on dit « vous ne tuerez pas », quand on dit « vous ne volerez pas », vous voyez déjà que la protection, par exemple, de la propriété, de l'intégrité physique des personnes est déjà faite depuis ce temps-là. Et on remonte encore. On va vers la chatte du Madé, on va vers le silène de Cyrus. Vous allez voir que ce sont des textes qui avaient déjà prévu certaines choses. Et donc, si on voudrait se résumer à ça et qu'on fait une analyse comparée avec le bon sens, pour dire que des textes ont déjà prévu, en fait, certaines situations un peu comme ces droits de l'homme-là, aujourd'hui, que l'on réclame, vous allez comprendre que si on fait une étude comparée, on ne peut pas dire que la religion endort. Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est ce bon sens-là qu'on se dit, l'intelligence qu'on a aujourd'hui, le bon sens qu'on développe aujourd'hui, qui nous mène vers la ruine. Parce que quand une personne dit récemment, on dit « bon, j'ai droit à l'intégrité physique, j'ai droit à mon corps », et au nom de cela, par exemple, les gens avortent. Et aujourd'hui, nous sommes en face, par exemple, de situations où on met d'un côté le bébé, qui est une vie, et on met d'un autre côté l'intégrité physique de la mère. Et on dit de comparer les deux, de voir en fait laquelle il faut prendre, et on prend, disons, plus la mère que le bébé. C'est grave. Et ce sont ces situations-là qu'on ne voit pas et qui viennent tout doucement. C'est un peu comme la façon dont le féminisme évolue aujourd'hui. On ne sait pas. Mais ce sont des situations qui conduisent à ça. On suppose que pendant que la dame avait pris l'âge et qu'elle voulait peut-être assommer le monsieur, que ce monsieur-là se réveillait dans son sommeil et bloquait la hache et assommait à son tour la dame. On allait crier sur les réseaux sociaux, on allait crier partout qu'un homme a tué une femme et que c'était comme ça, que c'est comme ça. Voilà, parce qu'aujourd'hui, je vous l'ai dit au début, quand on dit femme à l'horreur, ça étonne. La femme n'est pas faite pour ce genre de choses. Parce que quand on prend les guerres, que ce soit depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, quand on prend les guerres, on sent que c'est beaucoup plus les hommes qui sont impliqués dans ces barbaries. Dieu a créé la femme comme un être doux. Et donc, on ne peut pas imaginer qu'un jour, ces femmes-là puissent entrer, en fait, dans ce qu'elles refusaient aux hommes. Quand un monsieur va en guerre ou qu'un monsieur va faire quelque chose, un monsieur en train de faire un tapage quelque part, et que sa femme arrive dans le lieu où elle est en train de faire le tapage, si la femme dit aux gens « c'est mon mari, laissez-le, je rentre à la maison avec lui, nous allons trouver une solution, mais laissez-le, arrive à la maison, il va trouver les mots justes à dire à ce monsieur-là pour qu'il change d'humeur demain. » Pourquoi est-ce qu'on dit souvent que la nuit porte conseil? La nuit porte conseil, chez les hommes mariés, la femme est aussi dans la nuit. Et donc, elle permet en fait à cet homme-là d'avoir ce qu'il doit avoir comme conseil. Donc, je crois, si on doit le résumer, que l'éducation spirituelle est en réalité l'un des points forts sur lesquels il faille se baser. En plus de ça, on pourrait ajouter, pour ceux qui ne sont pas forcément spirituels, beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire y mettre d'autres éléments tels que aider la loi à appuyer cela et aussi éduquer. C'est ce que nous faisons quand nous éduquons, par exemple, à l'ONG JTS au civisme, aux valeurs de citoyenneté. C'est ça, en réalité. Voilà.
Alors, vous décrivez la femme comme étant un être doux.
Oui.
Alors, si la femme douce que vous décrivez si bien, on arrive à un tel extrémisme, qu'est-ce qui, selon vous, peut occasionner une telle réaction de la part de cet être que l'on qualifie de doux?
Oui, et c'est ce que je disais. Le monde est en train de changer. L'évolution que nous sommes en train de donner au monde n'est pas en fait ce qui est fait à la base. J'ai lu un commentaire récemment sur le réseau social Facebook et ce commentaire m'inspire. Quand le monsieur dit que autrefois, en fait, la femme est créée selon, déjà avec nos valeurs, la femme est l'être qui est à la maison, qui est au foyer, qui prend soin des enfants, de leur éducation, qui est dans la douceur, qui parle au mari, qui le conseille, qui le soutient. Aujourd'hui, on a dit non, que cette femme-là n'a plus ça comme rôle, que la femme doit aller sur les fronts, doit faire telle ou telle chose, au même titre que les hommes, doit faire ce que les hommes faisaient. Mais alors, il faut s'attendre à ce que les hommes faisaient aussi de mal soit copié par la femme. Parce que si la femme était un être doux, et on la connaissait comme étant être doux, et ça rentre même dans ce qu'on appelle la quintessence même de la femme, son essence, l'être même de la femme, si aujourd'hui on arrive à sortir de cette essence-là, et qu'on va vers une femme artificielle, qui est aujourd'hui un nouveau type de femme, alors il faut s'attendre à ce que ce nouveau type de femme-là fasse sortir de nouveaux vices qu'on ne connaissait pas. On la connaissait en tant qu'être doux, mais aujourd'hui, avec l'évolution du monde, avec les changements qu'on veut lui donner, avec les fronts sur lesquels on veut l'envoyer, elle devient un autre être. Vous allez remarquer que récemment, il y a eu des braquages, on a parlé de braquages, et on a vu parmi ces 17 personnes arrêtées là, deux femmes. Ce sont des cas rares. Autrefois, quand on parle de braquage, ce sont les hommes. Mais aujourd'hui, il y a les femmes dans les braquages. Vous comprenez que la situation devient calamiteuse.
Et donc, doit-on comprendre que cette parité entre l'homme et la femme, dont on fait cas souvent, a-t-elle ses conséquences?
Oui, effectivement. La parité, les gens n'ont pas compris la parité. Nos sœurs qui crient la parité ne savent pas. Parce que quand on parle de féminisme, il y a le féminisme du gender et il y a le féminisme de la parité. Il y a ceux-là même qui dénient tout ce qui est genre. Et vous allez voir qu'il y a l'intersexuation. Il y a tellement de mots autour de ces questions de féminisme et de parité-là, que les gens ne savent pas. C'est au nom de ça que les gens disent « Non, moi, je n'ai pas besoin de me marier. Non, moi, je n'ai pas besoin d'enfants. » Quand on parle d'avortement aujourd'hui, vous croyez que c'est quoi? Ce sont ces questions-là qu'il envoie. Nous sommes égaux en tant qu'êtres humains. Mais attention, il faut faire attention. Parce qu'on risque de passer de l'étape de la morale pour entrer dans ce qui n'est pas normal.
Aurore Dosuyovo, l'éducation spirituelle, qui la donne? Cela donne-t-on à soi-même ou quelqu'un constitue pour nous un guide à cet effet? La parole de Dieu, elle est là, certes, mais beaucoup ne croient pas en Dieu.
Oui, enfin, l'éducation spirituelle, il faut avoir un besoin et aller vers l'éducation spirituelle, vers les autorités. Enfin, quelqu'un qui est un peu éclairé pour t'amener quand même à t'approprier.
Comment ressentir ce besoin d'une éducation spirituelle?
Lorsque, par exemple, quelqu'un a un souci à l'intérieur de lui, c'est que la résolution de ce problème n'est pas naturelle. Celle-là, c'est ce qui pousse à aller chercher en réalité Dieu. Parce que je vois, par exemple, dans un cas, parce que quand on regarde les situations, c'est deux couples en fait. Quand je regarde la chronique un peu, c'est de couples il s'agit. Et c'est pas un couple, c'est vrai, ça commence toujours par « je t'aime ». Et quand ça commence comme ça, on ne se dit pas les difficultés qui sont liées à deux êtres qui ne se connaissaient pas au départ, qui n'ont pas vécu ensemble depuis des années. À un moment donné, au-delà de 20 ans, on se met ensemble avec quelqu'un qu'on ne connaît pas en réalité. Maintenant, il faut à un moment donné une parole plus forte que soi-même pour pouvoir se temporiser lorsque, par exemple, ce dernier avec lequel on se met en couple te fait mal et que tu ne sais pas comment réagir et que tu te dis, la Bible dit que c'est vrai, la femme est un sexe faible. Tu essaies de clamer la douleur dans le couple parce que quand je regarde un peu cette situation, on dit que l'homme dormait et la femme s'est levée. C'est-à-dire, la femme a regardé un peu son moment le plus faible pour pouvoir réagir parce qu'elle s'est certainement dit, si cet homme est en éveil, c'est pas évident pour moi, alors je dois le voir lorsqu'il est faible. Et à un moment donné, c'est parce qu'elle a cessé d'avoir confiance aussi en Dieu. Parce que quand on a confiance en Dieu, on prie et on demande à Dieu de prendre le contrôle de toute chose. C'est alors que la chair s'efface, la chair réussit à s'éclipser pour laisser Dieu agir. Et beaucoup aujourd'hui, on sont en train de perdre cette confiance en Dieu, en un être suprême. C'est pourquoi chacun essaie de réagir d'une manière ou d'une autre pour prendre la place de Dieu, entre guillemets, qui ne réagirait pas. Mais la finalité, en réalité, n'aboutit pas à quelque chose de bon. Maintenant, en l'homme, il y a aussi un esprit aussi qui participe. Parce que lorsque la colère, la Bible dit par exemple de ne pas dormir sur la colère, de régler les choses avant de s'endormir. Et lorsque deux individus ont oublié par exemple ce test, et qui sont partis s'endormir dans la colère. Je vois par exemple ça, cette situation dans les couples, beaucoup de couples, des fois on se met en courroux et l'homme va tranquillement se coucher. Et puis après par exemple ces courroux-là, l'homme dort bien et la femme se rend compte qu'elle n'a pas sommeil parce qu'elle aurait souhaité que l'homme lui demande pardon, mais l'homme reste sur ses raisonnements et puis dit non, c'est moi, j'ai raison et s'endort. Et quand on voit ces situations-là, il y a une certaine colère qui naît. On dit, ben voilà, il m'a fait tous les ennuis et puis il m'a créé tous les soucis possibles dans la journée. Et le voilà qui tire bien, il dort très bien. Et ça énerve davantage. Lorsque cette situation arrive, par exemple, tu te rappelles que quand même, Dieu te dit une parole. Parce que le volet spirituel, c'est quoi? Ce que tu as mangé, ça reste à l'intérieur de toi. Et l'esprit remonte ça à un moment donné pour te dire, ça va aller. Ne enlève tes regards de lui. C'est pas lui en réalité. Je vais te donner au-delà de ce que ce monsieur est en train de te faire. Ça donne de l'espérance en tout cas, ça permet de voir au-delà de cette situation qui est en train de vivre. Parce qu'à un moment donné, on se dit, mais jusqu'à quand? Parce que le couple, quand on regarde les couples aujourd'hui sous nos yeux, dans notre environnement, un couple, quand ça se met avec des enfants, l'environnement n'accepte pas que ces couples-là se séparent, quelles que soient les situations. Et quand même, on part devant les parents vont te dire, non, ça a toujours été comme ça, il faut supporter, il faut surmonter et tout. Mais c'est là où on se rend compte qu'en réalité, mais qui peut me comprendre dans cette situation-là? Si ce n'est que moi-même. Or, si chacun avait déjà eu habitude d'aller vers Dieu, de lire la Bible, on peut dire, oui, Dieu me comprend dans cette situation et lui viendra m'aider à m'en sortir d'une manière ou d'une autre. Donc, les réseaux sociaux, en réalité, aujourd'hui, font ressortir ce qui se passait en réalité. Sinon, c'est ce genre de choses, je crois, ça se passait depuis des années. Mais il n'y avait pas Facebook, par exemple, où quelqu'un pouvait citer ça, avoir cette information, parce qu'on avait seulement les médias officiels. Et le média officiel choisissait ce qu'il allait nous faire entendre. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde est devenu journaliste, je veux dire, tout le monde écrit ce qu'il a remarqué à côté de sa maison et tout le monde lit en même temps et ça crée cet effet. Sinon, je crois, ce genre de situation était dans la société, mais les gens ne remarquaient pas. Donc, aujourd'hui, il faudrait plus augmenter, accentuer l'éducation, relayer ce qui est bien, ce qui doit être fait. Il faut relayer les non-dits dans les couples, ce qui se passe. Les couples sont souvent peint comme des couples parfaits, non, tout va très bien. Parce que personne ne veut dire, ok, ça ne va pas, mais j'arrive à y arriver. Personne ne veut souvent témoigner de ce genre de choses. Donc, quand un couple se révèle un peu difficile, on se dit, voilà, c'est chez lui seulement, ça ne va pas. Or, en réalité, dans tout couple, il y a des difficultés, mais les gens arrivent à surmonter. Et essayons de communiquer sur les secrets de ces couples-là qui ont duré dans le temps. Et c'est ce à quoi la Bible nous livre des fois, quand on lit l'histoire d'Abraham et de Sarah, qui ont vécu des temps longs dans leur foyer. Je vois par exemple le couple de Isaac et de Rebecca dans la Bible. Ils avaient eu des situations et chacun a choisi un enfant. Par exemple, on dit la femme Rebecca avait choisi Jacob parce que Esaü, son aîné lui causait des soucis. Et à un moment donné, cette femme a réussi à amener Jacob à usurper la bénédiction parce que le couple n'était pas uni. Quand je regarde cet aspect-là, ce couple n'était pas uni sur des décisions par exemple par rapport à leur enfant. Mais l'enfant a su ça plus tard dans sa croissance. Donc, ce genre de difficultés existaient depuis. Mais lorsque nous réussissons à voir la finalité de ces couples qui quand même ont surmonté des temps, ont quand même réussi à accomplir leur destinée indépendamment de ces crimes-là, ça sert d'exemple, ça sert de modèle et ça permet de se rappeler. Et c'est le rôle que la Bible nous amène à voir. Ça nous amène à nous rappeler de ces modèles. Souviens-toi de telle personne dans la Bible, souviens-toi de telle autre. On voit par exemple le couple de Abigail et de Nabal. Et la Bible a clairement dit que Nabal était un homme méchant et Nabal était dur avec sa femme. Mais la femme était une femme tendre et elle a gardé sa tendresse jusqu'à la fin. Et finalement, Nabal, cet homme méchant, était mort. Et cette femme, Abigail, s'est mariée avec le roi David après. Donc, quand nous regardons la finalité de nous regardons la Bible, nous voyons le cas de chaque personne, d'accord, malgré sa dureté, d'accord, et nous voyons la fin.
Et donc, déjà, nous retenons de votre intervention que les conflits conjugaux, en fait, peu importe la nature de ce conflit-là, il faut quand même que le couple arrive à trouver un point d'entente avant de se coucher.
Oui, il faut nécessairement trouver un point d'entente.
Alors, Aurore, au regard de la gravité de l'acte posé, est-ce que vous ne pensez pas que les couples mariés devraient visiter les psychologues ou les psychiatres de temps en temps pour éviter ces genres de drames?
Normalement, mais ça, c'est encore un autre souci, parce que qui voudrait aller parler de sa part à un psychologue? Et dans notre environnement, on se dit, ben, le psychologue lui-même, à quel âge? Et puis là, quelle situation. C'est la manière dont nous réagissons en réalité. Sinon, en réalité, il faudrait que le couple commence par développer cette habitude de parler. Nous avons dans notre environnement cette faiblesse de ne pas parler de ce qui ne va pas. Tout le monde a envie de peindre en bien ce qui va bien. Donc, il faut développer, il faut aller vers les psychologues. Aller vers les hommes religieux, c'est pas spirituel pour une plus.
D'accord. Alors, nous avons d'ailleurs tendu notre micro à un psychologue qui opine sur ce que le chroniqueur appelle les femmes à l'horreur. Il s'agit de Bernard Comelan, psychologue clinicien et thérapeute de couple. Voici la quintessence de sa déclaration.
Je suis Comelan Bernard, je suis psychologue clinicien. Alors, l'explication psychologique que nous pouvons donner à cette situation, à ce drame, cette situation dramatique, c'est que nous sommes en présence d'une jalousie maladive ou encore jalousie obsessionnelle ou appelée encore syndrome d'Othello. Alors c'est la jalousie à l'extrême qui peut amener à l'homicide comme l'histoire est relatée, qui peut amener à l'homicide. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que le partenaire contrôle l'autre, vérifie tout le temps si l'autre continue, l'autre l'aime toujours. Alors donc c'est dû souvent à des problèmes d'attachement. Attachement sécure ou bien insécure, un mauvais attachement dans l'enfance avec les parents. Ça peut faire que dans l'adulte, dans le cadre du couple, un conjoint peut ne pas arriver à, en tout cas peut manifester de jalousie à l'extrême qui peut amener jusqu'à l'homicide. C'est le cas avec cette dame-là. Donc souvent les causes sont que peut-être que la dame a eu des échecs au plan affectif dans le passé, ce qui le met dans une anxiété et dans une anxiété qui le conduit dans des troubles obsessionnels compulsifs. Voilà un peu comment est-ce que nous pourrons qualifier, expliquer cette situation au point psychologique.
Kevin Akin, vous venez d'écouter l'expert Bernard Comelan qui parle du syndrome d'Othello, qui est une pathologie qui fait partie des troubles obsessionnels compulsifs. Il parle dans ce cas de la jalousie maladive ou obsessionnelle. L'expert, justement, donne pour cause le mauvais attachement affectif et les échecs du passé. Et donc, une personne qui est atteinte de cette pathologie, l'expert l'a si bien souligné dans son commentaire, se retrouve dans une anxiété, une peur d'être abandonnée et donc veut s'assurer par tous les moyens d'être toujours aimée et désirée par son ou sa partenaire, puisque cela va dans les deux sens. On dit souvent que l'homme s'installe là où il trouve une femme qui puisse lui procurer de la paix en tant que futur chef de famille. Comment pensez-vous qu'il est possible à un homme de prouver à une femme qu'il l'aime, surtout que cette dernière devient un gendarme?
Oui, si je dois donner un avis vraiment personnel, je crois que une femme gendarme, je n'en veux pas. Franchement, une femme gendarme, je n'en veux pas. Et partout, le débat s'est posé avec des personnes sur, par exemple, le fait qu'une femme puisse utiliser ou puisse fouiller le téléphone d'un homme. J'ai toujours refusé. J'ai dit, c'est pas possible. D'abord, moi, je ne fouille pas le téléphone d'une femme et donc une femme ne peut en aucun cas, en retour, fouiller mon téléphone parce qu'il faudrait que la confiance s'installe. Vous savez, il y a de petits trucs qui font partie de la confiance à jamais. Je pense que la confiance est un élément primordial dans la vie de chaque personne. Quand je vous fais confiance, et si vous faites que je perds votre confiance, ce n'est pas possible que je revienne encore vous donner ma confiance. Ce serait difficile. Et donc, je ne peux pas accepter que des situations s'accumulent pour que je puisse perdre cette confiance-là. Je suppose que j'ai pour habitude de prendre le téléphone de mon épouse et que chaque fois, je prends le téléphone. Vous savez, aujourd'hui, quand les gens veulent vous créer des problèmes, ils sont capables de vous en créer. Donc, un monsieur, vous savez, comme on le dit, il y a une blague qui disait que le dragueur, vraiment, ils ont des mots qui sont tellement bizarres. C'est que vous partez au marché, une dame va au marché, le gars voit cette dame-là, l'accompagne par exemple jusqu'à la boulangerie, mais son message du soir qu'il va écrire à cette dame-là, vous allez entendre, j'ai été heureux de passer ce moment magique avec toi. Ce moment m'a fait passer. Vous voyez, des commentaires bizarres.
Et vous, vous êtes l'homme, vous tombez sur ce commentaire-là dans le téléphone de votre femme, vous allez vous dire, oh, elle m'a trompé. Et donc, si vous n'avez pas confiance en elle, ça suffit déjà. Si un autre jour, quelqu'un écrit un autre message du type, ça suffit pour que vous perdiez déjà les quelques bases de confiance. Quand vous doutez, vous pouvez vite et chavirer. Donc, pour moi, c'est qu'il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Vous devez avoir confiance en votre homme. Vous discutez avec lui. Si le monsieur discute avec vous de quelques problèmes et autres, de quelques situations et autres, vous comprenez, vous dialoguez. Mais être un gendarme derrière cette personne-là, non, non et non, jamais. Ça
vous êtes catégorique.
Oui, oui, oui. Catégorique sur la question.
Alors, Aurore parlait tout à l'heure de la communication dans le couple. Pensez-vous que la confiance puisse s'installer uniquement en communiquant?
Oui, je crois que en communiquant, c'est vrai, mais les actes aussi aident en fait à donner confiance. Vous voyez, quand une personne se sent aimée, c'est pas seulement dans la parole que vous prouvez votre amour à quelqu'un. Vous devez montrer. Vous, il y a des gens qui n'ont pas l'art de la parole, qui ont du mal à exprimer leurs sentiments. Il y a des gens qui ont vraiment beaucoup de difficultés à exprimer les sentiments. Mais quand vous voyez quelqu'un qui se soucie de vous, qui peut-être vous demande « Ah, quelle est votre situation par rapport au boulot ?»« Quel est ton temps ?» La personne essaie de se mettre en garant. Je prends une petite fable pour donner l'exemple. On dit qu'une dame et un monsieur sont allés au zoo. Et la dame a vu, par exemple, a vu un singe qui était en train de jouer avec la femelle. Donc, était en train de la toucher tout doucement. Et la femme dit au monsieur, « Regarde, tu vois ce singe-là, c'est ça, c'est ce qu'on vous demande, vous les hommes. Soyez romantiques, faites ça. » Et le monsieur a dit, « Tu n'as pas encore compris la situation. » Il y avait à côté un lion et une lionne. Donc, et la dame disait, « Voilà, vous vous faites comme ce type-là maintenant. Vous êtes éloigné, chacun regarde de son côté, que c'est pas bien. Faites comme ce singe-là. » Et le monsieur a conseillé à la dame, jette une pierre à la lionne. Et quand la dame a jeté une pierre à la lionne, le lion s'est mis debout et a rugi. Et le monsieur lui a dit, voilà, jette une pierre au singe. Quand ils ont jeté, le singe a rapidement cherché son chemin et allé dans les arbres. Et lui a dit, voilà, c'est ça, vous ne comprenez pas. Ceux qui sont là, vous pensez qu'il faut être toujours... Non, quand la situation se pose à travers certains actes, vous comprenez que celui-là vous aime, est prêt à donner sa vie pour vous. C'est ça.
Kevin Akin, la sociologie africaine en général, et béninoise en particulier, qui tolère l'infidélité de l'homme ou la polygamie et condamne toute forme de polyandrie chez la femme, ne favorise-t-elle pas cet état d'esprit de la femme qui se fait justice, étant convaincue qu'il n'existe dans la société aucun tribunal traditionnel et familial, fût-il établi de sa propre famille?
Oui, si vous parlez de sociologie africaine, ça voudrait dire que ces dames-là sont nées dans ça. Ça voudrait dire qu'elles sont nées dans une sociologie qui les a éduquées à ça. Si on vous apprend à être dans la polygamie, vous ne pouvez pas grandir et dire que vous ne voulez pas être dans la polygamie. Ça veut dire qu'on ne vous a pas enseigné ça à la base. Donc, si c'est une sociologie africaine qui formate ou qui disons, donne à chacun depuis la naissance ce type d'éducation-là, après, la personne ne peut pas changer de mentalité. Ça voudrait dire que les gens se voient ailleurs et veulent copier ça. Donc, si vous voulez copier, comprenez donc qu'il faudrait, depuis la base, qu'on puisse rééduquer les hommes à cela. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui a été éduqué jusqu'à 50 ans qu'il a la possibilité d'être polygame. Vous ne pouvez pas lui dire aujourd'hui, parce que vous êtes une dame de 25 ans ou de 36 ans qui a connu les réseaux sociaux, lui dire aujourd'hui que non, la polygamie, c'est pas truc, c'est pas dans notre truc. Même la polygamie ici au Bénin, c'est en 2002. C'est en 2002 que ça a quitté les tests, la loi. Donc, je crois que si c'est dans nos traditions, il faudrait l'accepter. Ça ne peut pas être en fait cause de cela. Si la personne pense qu'elle pourrait, elle ne peut pas vivre dans une vie polygamique, alors vous vous entendez au début. Mais je crois que le tout est une question d'éducation. Et je crois que éducation fait le travail pour éduquer tout le monde. Et je crois que ça aussi, c'est un point de ça.
Aurore, l'Institut national de la femme au Bénin, qui justement a pour but d'assurer la protection de la femme, s'est prononcé sur le sujet en la personne même de sa présidente, l'honorable Claudine Prudencio, qui déclare, je cite, « Je partage votre indignation, voire votre colère, face à cet acte d'une cruauté rare qui s'est soldée par une grande perte humaine que rien ne peut combler. » un acte de violence meurtrière venant d'une femme. La femme pourtant réputée porteuse de vie, mère de l'humanité, femme reconnue pour sa douceur et son calme face aux situations même les plus éprouvantes. C'est ce que déclare la présidente de l'Institut national de la femme, l'honorable Claudine Prudencio. Pour vous, face à l'infidélité de l'homme, la femme doit-elle garder son calme au regard de ce qu'impose la société africaine en général et béninoise en particulier?
Face à l'infidélité de l'homme, la femme doit se concentrer sur ses objectifs. C'est ce que moi je conseille souvent aux femmes. Parce que quand le projet de la femme se concentre sur l'homme, quand la femme est un peu désœuvrée, c'est là où l'homme devient tout son souci. Et chaque jour, il réfléchit sur cet homme, il est parti où, il fait quoi. Et il fouine en réalité dans la vie de l'homme. Et c'est ça qui amène à ce genre de drame. Lorsque la femme s'assoit à un moment donné et commence par repenser à elle-même, ses objectifs de vie. Dans le couple, en réalité, quand l'un ou l'autre se donne de la valeur, travaille sur ses projets et tout le reste, ça évite l'infidélité, ça amène le respect. Parce que personne ne voudra perdre ce qui est important en réalité pour aller chercher autre chose dehors. Mais lorsque la femme, par exemple, à un moment donné, commence par se négliger, commence par changer d'attitude et devient un peu trop agressive, ça donne la porte ouverte à l'infidélité auquel on a souvent accès et ce qu'on entend généralement. Donc, c'est dommage, certes, mais c'est pas facile de gérer cette culture d'infidélité parce que c'est souvent pas du tout la joie de faire face à ça. Mais je veux dire, la loi qui autorise le mariage a autorisé aussi le divorce. Lorsque quelqu'un se voit un peu à bout de ses forces, c'est mieux d'aller vers cette porte de sortie que de pouvoir attraper une rage et d'en arriver là.
Et donc face à l'infidélité de l'homme, il faut juste garder son calme ou à la limite divorcer.
Oui, si quelque chose devient très insupportable, c'est mieux d'être seul que d'être à deux autrement.
Aurore, dans sa chronique, Maudie Johnson énumère un peu les raisons qui poussent l'homme à être infidèle, quand je fais référence à la seconde histoire de sa chronique où l'homme est surpris de voir sa femme pieuse et sage changer subitement de caractère. Je cite « Est-ce moi qui habille de manière indécente les filles et les femmes qui vous aguichent à souhait et vous demandent des momos en même temps que les numéros de téléphone ?» Mais ce n'est pas tout. Il poursuit en écrivant « Le plus étonnant, c'est que pendant que ce monde turbulent et immoral s'en trouverait de plus en plus à moi, avec des filles nourries aux novelas et aux TikTok, prêtes à tout pour mon agent de fonctionnaire, ma femme se fermait comme une huître. Son paradis résidait dans les seules paroles du divin pasteur. Quand on parle, vous êtes pasteur, quand on parle de la nouvelle naissance et surtout quand il s'agit de la femme, on pense souvent à cette femme simple, modeste, qui doit se nouer parfois la tête, porter des vêtements décents, des robes longues, se soumettre à son mari, etc. L'homme est impressionné par ce qu'il voit au dehors. Pour vous, la femme pieuse a-t-elle un moyen de séduire convenablement son mari ou est-elle réduite à ce petit monde que je viens de décrire?
C'est vrai, la femme est pieuse intérieurement. Ça ne veut pas dire qu'elle développe des caractères pour repousser davantage son mari. Et ça repart au départ en réalité. Lorsque deux êtres se sont rencontrés, en réalité, qu'est-ce que l'homme a aimé chez la femme? Il faut que la femme continue à travailler sur ça pour pouvoir la croître, quelle que soit sa religion, en fait, quel que soit son attachement à Dieu. Parce qu'il ne faut pas aller se réfugier dans les histoires pieuses pour pouvoir s'éloigner de la vie, quoi. Parce qu'il y a des gens qui, quand ils se réfugient un peu plus de ça, ils deviennent un peu trop autre chose. C'est vrai aussi, quand on regarde l'indécence, bien l'habillement et tout le reste, je vais dire que c'est des deux côtés. Pour équilibrer un peu le débat, il y a aujourd'hui aussi de ces hommes qui ne s'en rendent pas compte que leur femme aussi est soumise à des êtres de sexe opposés aussi, qui sont quand même plus désirables que le mari qu'ils ont dans leur maison et qu'ils ont aussi ce même combat en réalité de garder la fidélité. Parce qu'aujourd'hui, peut-être c'est pas trop dit, mais la femme aussi a ce même challenge-là. Voilà, mon mari est un peu trop spirituel. Voilà, parce que quand on parle de ça, il faut aller dans le lit aussi. Et il ne sait pas faire la chose. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde un peu difficile. Où tu vas, par exemple, en tant que femme dans une administration, tu tombes sur un monsieur, par exemple, qui te dit ouvertement. Oui, je veux te faire la chose plus que ton mari. Et tu entends ça en face de toi. Et tu te dis, ben bon, quelque part, il faut être solide pour ne pas être tenté. Si tu avais un mari trop pieux, un mari qui ne maîtrise pas la femme, parce que jusqu'à aujourd'hui, la majorité des hommes que moi je rencontre dans les ménages ne maîtrisent pas déjà leur femme qu'ils ont à l'intérieur.
Et que faut-il pour que ces hommes puissent mieux maîtriser la femme, selon vous?
Ça devient... il faut se concentrer sur sa femme, la connaître, et connaître la femme dans son entièreté, ce qu'elle veut, ce qu'elle aime, pouvoir y arriver.
D'accord. Nous approchons progressivement la fin de cette émission. Un dernier tour de table pour conclure. Kevin Akin, une bonne harmonie dans le couple, en gros, se résume à quoi?
Bien, avant de venir sur déjà la question que vous m'avez posée, permettez-moi de revenir rapidement sur les propos de l'honorable. Vous allez voir que dans ses propos, l'honorable n'a en aucun cas condamné fermement l'acte qui a été fait. L'honorable prend conscience de cela. L'honorable est avec nous, hein, mais ne condamne pas en fait. Vous voyez, ce sont ces problèmes-là qu'on ne règle pas tout
mais
doucement.
Mais elle a quand même souligné, et je n'ai peut-être pas fait part de cette déclaration, elle a quand même souligné que l'Institut National de la Femme, c'est aussi de protéger les hommes.
En réalité, si c'était un homme qui était dans ce cas-là, je vous assure qu'on allait dire, on condamne avec la dernière rigueur ce qui a été fait. Et c'est comme ça qu'on doit condamner. Parce que c'est ça là qui permet en fait des ouvertures et après les dames vont commencer à se promener avec les haches partout pour poursuivre les hommes. Oui, il faudrait revenir dessus. Maintenant je continue pour votre question, pour dire quoi? L'harmonie dans le couple, tel que vous l'avez dit, ça prend en compte beaucoup de choses. Ça prend en compte les discussions, telles qu'on l'a dit. Je crois que la coach, elle est mieux placée pour en parler et elle l'a dit. C'est discuter, c'est faire des choses ensemble. Récemment, moi, j'ai dit à l'une de mes filleules, si je peux le dire ainsi, qui est vraiment trop, ce que les Ivoiriens appellent alléluia, quoi, un peu trop concentrée sur elle. Je lui ai dit, il y a des sorties qui s'organisent pour des jeunes. Ma jeune sœur, tu sais, ce sont des choses de ton âge. Ça ne voudrait pas dire que tu vas aller te donner à l'alcool et autres. Mais il faudrait que tu sortes un peu de ce carcan-là qui est toujours concentré. Je vais à l'église, je viens à la maison, je vais... Non, ce sont les choses de jeunesse. Parce que là, on va apprendre. Quand moi j'étais tout petit, encore plus petit qu'aujourd'hui, mon grand-père disait toujours à mes oncles, avec qui j'étais, permettez à l'enfant de sortir, d'aller apprendre aussi dehors. On ne peut pas tout apprendre ici. Il y a de l'expérience qu'on doit apprendre. La maturité, ça n'a jamais dépendu de l'âge, disait Bomalé. Ça dépend de ce qu'on a vécu dans le passé.
D'accord. Aurore, la femme, on dit souvent d'elle, dans l'une de nos langues béninoises appelées fond, qu'elle est Nyonwesi. Autrement dit, elle assure le bien-être de la maison. Et pour vous, quelle qualité faut-il à la femme pour assurer l'harmonie dans le foyer?
Il faut que la femme soit patiente. Il faut que la femme développe vraiment la patience, se travaille sur elle-même pour accomplir sa destinée aussi.
Merci. Une actualité qui secoue la toile depuis quelques semaines, celle d'une femme qui a tué son mari à coups de hache. Et pourtant, le mariage n'est-il pas synonyme de bonheur, le gage d'un amour réciproque? Une suspicion d'infidélité peut-elle occasionner un tel extrémisme? Mesdames et messieurs, vous avez eu le plaisir d'écouter les différents avis sur cette émission. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous remercions Laurent Ladouce qui, depuis Paris, a participé à cette émission, malgré son agenda très chargé, Bernard Comlan, notre expert psychologue clinicien et thérapeute de couple qui spontanément a accepté d'éclairer notre antenne sur l'aspect psychologique du sujet. Nos deux invités en studio, je rappelle Kevin Akin, président de l'ONG Jeunesse et Talent pour le Sommet, une ONG qui fait valoir le talent des jeunes à travers des valeurs telles que le civisme, la citoyenneté, le patriotisme et l'exercice du devoir citoyen, et Aurore Dosuyovo, consultant en entrepreneuriat, leadership féminin, développement personnel, mais aussi pasteur. Un clin d'œil à Maudie Johnson, notre chroniqueur, qui nous a régalé avec cette belle chronique. Romuald Logbo, qui de coutume anime cette émission, à qui nous envoyons nos chaleureuses invitations. Les réflexions sur ce sujet vont se poursuivre dans les maisons. C'est ici que se referme cette émission. À la présentation, Gloria Divessolé, partie technique Ferdinand Zomba, réalisation Romuald Logbo, coordination éditoriale Ulrich Vital a retendu. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.
La chronique en débat, c'est l'actualité éducative avec l'éditorial de l'Esprit, comme l'a vu Maudie Johnson, analysé et commenté par Laurent Ladouce. La chronique en débat, c'est chaque semaine sur la web radio du groupe Éduc Action.